Bonjour et bienvenue à Détour Estival avec Vengeance Blas au micro et Maurice Bolduc à la console. Première partie d'émission comme tous les jeudis, notre mordu de sport. Myriam Larrette sera avec nous pour parler de sport. Et en deuxième partie, nous avons une invitée, le grand compositeur. comment il s'appelle? Walter Baudreau. Oui, Walter Baudreau, bien sûr, qui va nous parler un peu de ce qui se passe là-bas au niveau de la musique. Voilà, contemporaine bien sûr, voilà. Restez à l'écoute, on vous revient tout de suite.
That my word holds weight. My ascension was offensive to David Blaine. Satellite dishes from different dimensions, trying to pick up on the signal if we speaking on range. What's 10,000 hours to descendants of slaves and niggas who grew up living with that internal pain? It's just clock spinning to infinity, wishing we can buy back the minutes when we really get paid. But it's the simple things that keep my mind out the cage. Doing suicides on courts at Fauché, nothing more satisfying than a bucket through the chains. And getting off my chest was uncomfortable to say. When you're solid as a rock, you know there's nothing more to gain. What I learned about snakes on animal shows is that creatures of habit do what's natural. So I just watch my step and stay 100%. On my wrist, cause this doesn't exist. Not a knock or a diss if you ain't know what I meant. It only take a second just to show you this trick. Watch closely. There it went. I'm the opposite of talking different toilets, same shit. More like brand new day, same pair of kicks. My squad don't entertain comparison to derelicts. Just flesh and skeleton, but that's where it ends. Looking from any angle, you know that's the squarest biz. It's embarrassing. People don't care about heritage. You gotta get the frames fixed the way you see fit. Custom made for your vision till you fully commit. Only thing more clearer than my hydrated piss is the transparency of my soul's intent. It's all by design if you understand percentage like CMYK. Rich black makes a difference. We'll be right back.
c'était Tony Allen avec la complicité de Koreatown Oddity, Rich Black. Oh, je savais pas qu'il y avait des blacks qui étaient, des noirs qui étaient riches. C'est le titre de la pièce, c'est pas moi qui le dis, attention là. Bon, là, tout de suite, on perd pas le temps. Il y a la grande Myriam Larache qui nous attend.
Je suis là.
Pour nous parler un peu de Paralympique Tokyo 2020. Voilà, on va pas dire
bon
tout. Comment vas-tu, cher Myriam?
Ça va bien?
Oui, ça va bien. En dehors de la canicule, ça va.
Oui, elle finit demain.
Ouh, on espère.
Oui. Alors, Fulgence, oui, on va parler beaucoup des Jeux paralympiques, bien sûr, qui ont commencé cette semaine. Aussi, du championnat du monde de hockey féminin qui bat son plein à Calgary.
Ah bon?
Et bien, oui.
Ça a commencé quand, ça?
Ben, ça a commencé du 20 au 31 août. Hein. Ça a commencé le 20 août.
OK.
Et bien sûr, on va parler quelques mots à la fin pour finir du tennis, car le dernier grand chelem commence lundi aussi de l'US Open de New York.
Myriam, alors, Myriam, tu chompes pas. Hein.
Non, c'est un été chargé en sport.
Allez, je te laisse partir.
Oui. Alors, les Jeux paralympiques. Donc, la cérémonie d'ouverture de mardi a lancé donc officiellement les Jeux paralympiques de Tokyo 2020.
Oui.
Après la flamme allumée dans la vasque du stade olympique. Un défilé de tableaux a commencé. Il fut coloré et festif malgré un fond de pandémie et sans public.
Sans public, oui.
Oui, il faut toujours noter ça. Ensuite, les para-athlètes ont défilé à leur tour. Il y avait beaucoup d'émotions, Fulgence, et de fébrilité lorsque l'équipe des réfugiés du Comité international paralympique a ouvert le bal.
Oui.
Puis, les 160 autres délégations ont suivi. On va souligner que malgré l'absence des deux athlètes afghans, en raison bien sûr de la prise du pouvoir par les talibans,
oui.
Le drapeau de l'Afghanistan a tout de même suivi la marche dans le stade porté par un bénévole. C'est intéressant ça. Hein,
porté par un bénévole japonais.
Sûrement, oui.
Oui, japonais, sûrement.
J'ai pas bien vu.
Voilà,
le visage.
Porté par un bénévole, oui, Togo. Mmh.
Il faut savoir qu'ils ont été extradés en sécurité, les deux athlètes. Donc, ils sont sortis de l'Afghanistan, qui sont en sécurité, selon les Nations Unies. En ce qui nous concerne, notre drapeau a été porté par la judoka ontarienne Priscilla Gagné,
oui.
Seule représentante de la délégation canadienne pour la cérémonie. Ils ont défilé, tous ces sportifs, seulement devant l'empereur du Japon, Naruhito, et le président du Comité international paralympique, Andrew Parsons.
Okay.
Il faut savoir que la plupart des athlètes, pourquoi ils ne sont pas venus, contrairement à ce qu'on a vu aux Jeux Olympiques, bien sûr,
oui.
Ils sont restés, ils ont suivi la cérémonie du village, car il faut savoir que la prudence était de mise, car ces athlètes sont pour beaucoup immunodéficients. Donc ils ont plus de risques, au fait, d'attraper la pandémie.
Ah oui. Et puis, il y a d'autres mains qui ne peuvent même pas se déplacer sans la compagnie, sans la présence.
Exactement.
De quelqu'un.
Donc,
voilà.
Il y en a beaucoup, beaucoup. C'est pour ça qu'il y avait très peu d'athlètes. Je ne sais pas si tu as vu un peu la cérémonie.
Non, je n'ai pas pu voir ça.
Il y a des pays comme nous, par exemple, il n'y a que le porte-drapeau qui a défilé.
Oh, ouais.
Alors, donc, c'est à noter. Les Jeux paralympiques ont aussi dévoilé une nouvelle campagne. We are the 15. Alors, qui exprime un désir de changement de paradigme pour les personnes en situation de handicap.
Oui.
Ils représentent 15% de la population mondiale, qu'il faut ça savoir.
C'est beaucoup,
et donc,
hein.
Ils sont un. Énorme.
15%,
et donc, ils
oui,
sont
c'est 1, énorme, oui.
1,2 milliard de personnes. On ne réalise pas, je pense. Hein,
non. On
ils sont
pense...
perdus oh, dans
oui.
la marée humaine.
Oui.
Alors, soulignons que le para-badminton et le para-taekwondo sont les deux nouvelles disciplines à l'honneur cette année, comme on en a vu pour les Jeux olympiques, il y en a aussi pour les paralympiques.
Oui.
Tandis que le goalball et le boccia sont les seules épreuves exclusives des Jeux paralympiques. Alors,
c'est quoi ça, le boccia?
Qu'est-ce que c'est que le boccia?
Oui, c'est ce que je suis en train de te demander, Mia, qu'est-ce que c'est
voilà.
que ça?
Je savais que tu le savais.
Non, quel est ce sport-là, encore le boccia?
Le boccia, alors ça, c'est seulement pour les décisions neurologiques.
Ok.
Donc c'est pour ça que c'est exclusif. Ces deux épreuves-là sont exclusives.
Ah, j'ai bien hâte de découvrir ça.
Oh,
à la télé.
J'ai vu pour l'instant le goalball et j'ai été fascinée et admirative, honnêtement, il faut le dire.
Oui.
Alors le goalball, par contre, c'est pour la déficience visuelle, donc c'est la cécité ou partielle.
Oui.
Et ils leur mettent en plus un bandeau sur les yeux pour que ça soit complètement
sombre. Oui.
Sombre. Mmh. Et l'arbitre, je te dis qu'il vérifie tous les bandeaux de tous les joueurs.
S'il n'y a pas un petit trou là-bas ou bien
ouais,
quelque chose de transparent
exact.
Là-dedans. Ou...
C'est spécial, hein, oui, c'est spécial.
Waouh.
Voilà, alors le goalball, c'est un peu. C'est dans un gymnase, ça se passe, c'est trois joueuses contre trois.
Oui.
Elles ont deux filets comme au soccer, mais qui font toute la longueur du terrain délimité.
Oui.
Et là, l'équipe, donc, qui a le ballon, qui a un gros ballon avec des clochettes à l'intérieur, et c'est pour ça que ça leur sert, les clochettes, c'est pour savoir d'où vient le ballon et comment l'arrêter.
Ah.
Et donc, elles lancent le ballon à l'autre équipe adverse qui est couchée au sol.
Oui.
Et là, elles essayent que le ballon ne rentre pas, selon le bruit des clochettes, ne rentre pas dans le filet.
Mais ça pique, ma curiosité. Je dois...
Ah, c'est fascinant, il faut que tu ailles voir ça. Le Canada a d'ailleurs gagné son match aujourd'hui, le deuxième match, il a perdu le premier, mais il a gagné aujourd'hui.
Bravo.
Contre Israël.
Bravo.
Bravo.
Mmh.
Alors, c'est à voir. Et le boccia, donc pour la déficience neurologique, ça par contre, ça s'approche plus de la pétanque, le boulering.
Ok. Okay.
Ça lance une boule en avant,
oui,
de couleur, et ensuite les autres couleurs doivent s'approcher le plus de cette couleur qui est au milieu,
oui,
qui est rouge, je pense. Et c'est ceux qui ont l'équipe qui a le plus de balles, approche de la balle rouge, a le point. Alors,
okay,
tout, c'est intéressant.
Bon, ouais, j'ai bien envie de voir quelques images.
Oui, oui, c'est vraiment... moi, je suis admirative. Honnêtement, je vois là, en ce moment, les épreuves.
Le boccia.
Alors,
ouais.
Ça passe à la télévision publique, en passant, pour ceux qui nous écoutent, qui,
oui,
veulent voir ça. Donc, d'abord, il y a l'application, bien sûr, des Jeux de Tokyo, mais il y a aussi, sur la télé publique, à 14h, une heure, qui a fait un résumé de la journée.
OK.
Voilà.
Okay. Nous qui n'avons pas pu prendre ça en direct, on peut repenser en différé, quoi.
Voilà.
Ils ont des vidéos, des podcasts un peu partout, là.
Oui, partout. Ouais. Et sur l'application aussi,
c'est
on peut voir toutes les épreuves.
C'est ça.
Voilà.
Alors, je te laisse continuer.
Oui, on a déjà 4 médailles au Canada, pour le Canada. Tout d'abord en paracyclisme. Alors, c'est
4
tout d'abord
médailles
en cyclisme.
Déjà. Oui.
Paracyclisme, déjà. C'est le cyclisme sur piste que le Canada a reçu sa première médaille à Tokyo. La paraathlète, Kylie Shaw a remporté le bronze en poursuite individuelle aux 3000 mètres C4.
Oui.
C'est sa première participation à des Jeux paralympiques, donc elle était très contente. Et quand je vais vous dire le chiffre C4 ou S10 ou T2, ça c'est au fait le degré de déficience ou d'handicap que l'athlète il a. OK?
Ah.
Ce signe-là, okay, signifie ça.
Okay. Si donc c'est léger,
ça,
si c'est profond, écran, si c'est
voilà,
vraiment, voilà. Mmh. Wow.
Selon la discipline.
Mmh.
Alors, c'est l'Australienne, par contre, Émilie Petricola, 41 ans, qui elle aussi est à ses premiers Jeux, qui a remporté l'or en fracassant son propre record. Elle a eu une grande émotion et des larmes de joie lors de la cérémonie des médailles. C'était émouvant.
Ouais.
Alors, toujours dans cette discipline, cette fois c'est chez les hommes, le cycliste de 46 ans, Tristan Chernov, a décroché la médaille d'argent en poursuite individuelle aux 3000 mètres C1 à son dernier tour de piste paralympique. C'est l'athlète russe Mikhaïl Ashtanov qui a remporté l'or. Donc, il ne faut pas oublier que notre Canadien, donc Tristan Chernov, avec sa médaille d'argent,
oui,
a déjà raflé 3 médailles à Rio en 2016. Il avait raflé l'or, l'argent et le bronze. Et il est 3 fois champion du monde en 2016, 2017 et 2018. Donc, ce n'était pas un adversaire négligent.
Ok.
Ensuite, en fait, on part en natation maintenant. En natation, on était fort aux Jeux Olympiques et cette fois aux Paralympiques aussi. La nageuse Aurélie Rivard, je vous en avais parlé la semaine dernière, notre,
oui,
étoile, notre nageuse étoile, eh ben, elle a décroché une médaille de bronze aux 50 mètres style libre S10. Donc, elle a exprimé quand même sa déception. Vraiment, elle était très déçue en salle de presse parce qu'elle est quand même, elle détient le record paralympique et mondial. Donc, elle s'attendait, je pense, à une meilleure place. Elle a été quand même troisième. Elle a encore d'autres compétitions à venir. Elle a dit qu'elle va s'adapter. Elle a expliqué qu'il faisait très, très chaud, que ça l'avait un peu fatiguée et qu'elle avait perdu un peu ses repères.
Je croyais que c'était fini, cette histoire de canicule là-bas au Japon.
Oh, c'est pas fini. Il fait encore très, très, très chaud là-bas.
Waouh.
Oui. Chez, okay, les hommes, aujourd'hui, le nageur québécois Nicolas Guy Turbide a gagné l'argent 100 mètres d'eau S13. Alors Turbide a terminé 3 secondes après le champion paralympique. Cette fois, c'est le Bélarus Ihar Boki qui a établi un nouveau record et qui a remporté l'or avec 56 secondes 36.
Oui.
Alors à Québec et notamment à Cap-Rouge, la famille était euphorique ce matin pour Nicolas Guy Turbide. Pour la petite histoire, je vous raconte toujours une petite histoire.
Donc. Oui, j'aime bien ta petite histoire.
Les 6 membres de l'équipe des réfugiés,
oui,
dont je vous ai parlé au début, mmh, aux Jeux paralympiques, ont reçu des mots d'encouragement de l'un des athlètes réfugiés les plus célèbres au monde, la vedette internationale de soccer, Alphonso Davies. Tu connais, j'espère.
Alphonso.
Fulgence, en plus, il joue pour le FC Bayern Munich.
Ah oui, de par un Ghanéen, si je ne me trompe pas.
Ton deuxième pays, n'est-ce pas?
Oui, il joue à Munich, oui. Il est de parents Ghanéens, si je ne me trompe pas.
Exactement.
Oui.
Alors, bah, tu vois, tu le connais.
Ouais.
Alors, c'est le joueur étoile avec l'équipe nationale du Canada,
oui,
et avec le FC Bayern Munich.
Oui.
Il a déclaré que ses 6 athlètes avaient le pouvoir d'inspirer et de changer des vies. Il leur a écrit donc une longue lettre, je vous donne juste une petite phrase.
Oui.
Vous n'êtes pas seul, le monde est derrière vous, incluant 82 millions de personnes déplacées, dont 12 millions de ces déplacés vivent avec un handicap. Alors, Davis est né dans un camp de réfugiés au Ghana, parents libériens qui ont fui la guerre civile,
oui,
dans leur pays d'origine.
Oui,
et
oui,
il est
établi
au Canada,
c'est
maintenant.
Vrai, c'est vrai, c'est vrai. De parents libériens réfugiés au Ghana, du Ghana au Canada, oui, c'est vrai.
Je l'aime bien.
Ouais. Et puis, tu joues.
Bon,
c'est pas n'importe qui joue au Bayern de Munich. Hein.
Ah non, c'est ça. Je suis étonné que tu ne saches pas ça. Voyons, c'est genre. Alors, on passe maintenant au championnat du monde de hockey féminin. Alors, oui, il bat son plein en ce moment. Après avoir été annulé en avril, en plein cœur de la troisième vague du Covid-19,
oui,
le championnat mondial féminin 2021 a finalement atterri à Calgary, en Alberta. Ville haute pour la première fois de ce tournoi qui se déroule donc du 20 au 31 août. Au programme, 31 matchs sont prévus au Winsport Arena du Parc Olympique du Canada.
Oui.
10 équipes de partout dans le monde se disputent donc la médaille d'or. Les Américaines le sont depuis 2013 et les Canadiennes sont finalistes, mais elles sont pourtant les plus titrées, 10 fois championnes du monde. À noter quand même nos Canadiennes. Hein. Oh oui, au tour préliminaire dans le groupe A, attends, la meilleure. On retrouve les deux donc meilleures équipes du monde, les Canadiennes et les Américaines.
Oui.
Elles sont toutes les deux toujours invaincues et récoltent respectivement 9 points. Mais ce soir, c'est presque une finale, puisqu'elles se confrontent à 18h à Calgary. C'est à suivre si vous voulez regarder ça.
C'est ce qu'on appelle le derby.
Oui,
exactement. Ça, c'est le derby.
C'est le derby.
Ouais.
Pour finir maintenant, c'est le tennis. Je vous dis deux petits mots, car oui, lundi, le grand dernier chelem de l'année, l'US Open de New York,
oui,
débute à Flushing Meadows. Ça sera du 30 août au 12 septembre. Malheureusement, le tournoi perd encore une de leurs principales têtes d'affiche. Serena Williams a déclaré forfait pour une blessure à l'épaule.
Oui, j'ai appris ça, j'ai vu ça passer,
oui,
quelque part.
Elle a annoncé ça hier ou avant-hier, je pense.
Oui.
Ce retrait s'ajoute à ceux de Roger Federer, Rafael Nadal,
après son
et du tenant du titre.
Oh, ouais, il ne peut pas être tous là. Non, 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 les gens.
Bon.
Bon, est-ce que, Myriam, je vais te dire une chose, il faut être sincère. Hein. Je pense bien que, oui, Federer, ça, il va vers la retraite.
Je pense, parce que cette année, ça a été catastrophique, son soi-disant retour. Hein.
Oui, oui,
ouais,
oui. Il n'était pas bien guéri. Pourquoi il est revenu?
Je n'ai
rien compris.
Ben, je pense qu'il pensait être prêt. Il pensait être prêt, je pense, pour le tournoi de Wimbledon.
Il y a Maurice qui me fait signe en disant que c'est pour de l'argent qu'il est revenu, même s'il n'était pas
prêt. Non, je ne sais pas. Son tournoi favori de Wimbledon, je pense qu'il voulait y retourner.
C'est
il n'a pas pu y aller.
Oui.
Je pense que là, ça a dégringolé. Après, il a tout annulé après, d'ailleurs.
C'est vrai.
Bon, Dominic Thiem non plus ne peut pas venir parce qu'il est blessé. C'est le tenant du titre de 2020. Et en dernière heure, on a appris que les Américaines Venus Williams, qui étaient invitées à ce tournoi, et la cinquième joueuse mondiale aussi américaine, Sophia Kennan,
oui,
ne viendront pas.
La petite Kennan.
Elle est positive, elle a été testée positive au Covid-19, c'est pour ça qu'elle ne vient pas.
Oh la pauvre. On lui souhaite un prompt rétablissement.
Ces athlètes. Mais je pense qu'en forme comme ils sont, ils passent bien. On les voit vite guérir au bout d'une semaine. Hein,
oui. Et Naomi, tu n'as pas entendu parler d'elle, si elle vient ou pas?
Naomi, donc je pense qu'elle doit être en tête d'affiche.
En tête d'affiche.
Elle n'a pas annoncé qu'elle ne venait pas.
Oui. Elle a encore le problème mental. Là. Il faut qu'elle se soigne aussi. Ce n'est pas bien.
Elle y va petit à petit.
Oui, on espère.
Voilà.
Alors,
tout ça, c'est lundi.
Oui.
Pour les amateurs de tennis.
Ouais.
Et si vous êtes amateur de soccer de plage, j'ai vu un match aujourd'hui.
Oui.
Devine qui a gagné? Le Sénégal contre le Brésil.
Le Sénégal a gagné.
A gagné, c'était fabuleux. Et les Brésiliens, les pauvres, eux, On pleurait sur le banc.
Le Brésil, alors, voilà. Le Sénégal qui bat le Brésil au soccer de plage. Alors que c'est la spécialité
c'est
des Brésiliens.
Oui, les Brésiliens sont les favoris. Le public sénégalais, d'ailleurs, un petit public sénégalais, parce que ça se passe en Russie.
Oui, en plus.
Le public sénégalais était en joie. Là.
Ah non, il n'en revenait pas. Non, parce que c'est la spécialité des Brésiliens.
Oui, bien sûr.
Le soccer de plage.
Ils pleuraient, Fulgence, sur le banc.
Ah oui.
Ils étaient assis, puis ils pleuraient tellement, ils étaient choqués de tant de.
Merci
de ce
beaucoup,
résultat.
Myriam. On se retrouve.
Voilà.
On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière.
Et en studio.
Oui, et il faut que tu fasses le déplacement.
C'est ça que je dis, je serai là.
Voilà. Alors, merci à toi, bonne soirée, et puis à la semaine prochaine.
Allez, à la semaine prochaine. Bye.
Allez, bye.
Kid in a small town, I did my best just to fit in. Broke my heart on the playground when they said I was different. Oh, now I'm all grown up and nothing has changed. Yeah, it's still the same. It's a hard life on easy street. Just white paint and picket fence as far as you can see. If you think we live in the land of the free, you should try to be black like me. My daddy worked day and night for an old house and a used car, just to live that good life. It shouldn't be twice as hard. Oh, now I'm all grown up and nothing has changed. Yeah, it's still the same. It's a land of the free, you should try to be, oh, black like me. Oh, 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 oh. I know I'm not the only one. Just white painted picket fences, far as you can see. And if you think we live in a land of the free, you should try to be, oh, black like me. Oh, and someday we'll all be free, and I'm proud to be, oh, black like me. And I'm proud to be.
Quelle belle sensualité, Mikey Guyton, Black Like Me. Voilà, avant de continuer en musique rapidement, il n'y a pas assez de temps, je ne peux pas aborder un sujet un peu plus long. Il y a eu le tirage de ça aujourd'hui, hein, Ligue des Champions 2021-2022. Voilà, ça va vite, hein, ça va très 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 vite. Demain, j'aurai un peu plus de temps, je vais rentrer dans tous les détails, vous donner tous les groupes qui rencontrent qui est éliminé, qui est là, qui rencontre qui. Alors soyez avec nous demain. Et surtout en deuxième partie d'émission, parce qu'en première partie d'émission, j'aurai une invitée, ou bien des invités. Alors en deuxième partie, je vais me concentrer un peu plus ça avec d'autres sujets, bien sûr. Là, je vois ici Paris Saint-Germain comme l'Inter. Oh, Paris Saint-Germain comme Manchester City. L'Inter de Milan contre le Real, le Bayern contre Barcelone, c'est ce qu'on appelle le groupe de la mort. Voilà, celui qui est dans ce groupe-là, il faut tout gagner, quoi. Sinon, c'est fini, quoi. Tu peux même pas arriver au deuxième tour. Restez à l'écoute. On vous revient après la petite pause. Cette pièce musicale, et puis il aura bien sûr la petite pause publicitaire. On écoute la pièce musicale d'abord. Laetitia qui chante L'amour.
J'ignore si ce que j'aime en vous, c'est vous. Mes idées deviennent floues, je suis à bout. Pourquoi vous? Et ce vertige qui me prend tout à coup, il me viendrait d'où? De moi ou de vous? Je me sens vraiment dessous de tout. Je ne tiens plus bien debout, sans doute un coup de grisou. Inutile de me mettre en joue, j'avoue, comme un arrière-goût d'amour fou, tabou. N'essayez pas de m'arracher la moindre bribe du moindre.
Qui nous chantait l'amour. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, on revient avec notre invité, voilà, qui va nous parler de musique contemporaine. Voilà, ouais, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'événements qui arrivent d'ici peu. On va aller dans tous les détails avec l'invité, et puis bon, ouais, les amoureux de cette musique contemporaine seront bien gâtés. Restez à l'écoute. À tout à l'heure.
Détour estival avec Fulgence Blas. Thank you.
André Hamel. L'étude de la pièce « L'être et la réminiscence ». Voilà, on a notre invité déjà au bout du fil. Ce grand monsieur, je l'appelle grand monsieur, pour qui j'ai beaucoup de respect quand je vois sa feuille de route, ses œuvres et puis sa distinction, ça me donne le tourniquet, je vous le jure.
En train de me faire rougir.
L'enfant terrible de la musique contemporaine au Québec. Bonjour Walter Boudreau.
Oui, bonjour, bonjour.
Grand compositeur, saxophoniste, chef d'orchestre et directeur artistique de la Société de musique contemporaine du Québec depuis 1988.
Ça fait 33 ans.
Ah oui, bien compté là. Vous êtes fort avec les chiffres.
Parfois.
Alors, qu'est-ce que vous nous avez concocté là encore? Quelle est cette nouveauté de faire encore preuve de créativité en proposant cette série de concerts monographiques dédiés aux compositeurs québécois?
Oui, ben voici la... On était devant, comme beaucoup de nos collègues,
oui.
Milieu... Nous avons été pris de court par la pandémie, la COVID-19.
Oui.
Et normalement, le gros de notre saison, de nos saisons,
oui.
Tourne autour de deux pôles principaux.
Oui.
Le festival M&M.
Oui.
Qu'on a tenu contre vents et marées.
Oui.
La saison dernière, parce qu'on l'a fait uniquement en ligne.
Oui.
On avait même songé à l'annuler, mais on s'est dit non, on va le faire quand même. On est allé en ligne.
Il n'en est pas question, voilà.
La réponse a été très positive. On a eu beaucoup de gens qui ont suivi le festival.
Bravo.
La difficulté, bien sûr, avec Montréal Nouvelle Musique,
oui.
C'est un festival international, alors on est obligé de se passer, si vous voulez, de nos invités internationaux, oui. Puisqu'on ne pouvait pas les inviter au Canada.
Pandémie oblige.
Mais non, à moins qu'ils se foutent en quarantaine dans un motel à Dorval, pour venir jouer une heure à la SMCQ.
Ça valait pas la peine.
Ouais. Chez eux, puis vivre la même chose. Mmh. Alors, on a fait le festival en ligne.
Oui.
Et ça s'est très bien passé. Mmh.
J'ai eu des échos.
Pardon?
J'ai eu des échos.
Oui. Mmh. Alors, mais les choses évoluant très rapidement.
Oui.
Normalement, on a une année festival, puis on a une année hommage. Pendant l'année hommage, c'est un vieux projet que j'ai mis sur pied il y a une dizaine d'années,
oui.
C'est de prendre un compositeur québécois,
oui.
Et de vraiment le mettre à l'honneur,
oui.
De jouer le plus de sa musique possible,
oui.
Plus d'interprètes possibles d'ensemble de groupes et d'orchestres. Mmh. Parce que les compositeurs sont une... comment dirais-je donc? Sont un peu une faction ignorée dans le milieu. Tu sais, on parle des metteurs en scène, des chorégraphes, on parle de tout. Mais c'est rare qu'on parle des compositeurs. En général, on attend que les compositeurs décèdent avant de leur rendre un hommage.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Je voulais montrer, je veux montrer que le compositeur est quelqu'un de bien vivant.
Oui.
Et c'est intéressant parce que, imaginez, c'est des petits-enfants. Moi, j'aurais aimé ça. Moi, quand j'étais petit, si j'avais pu aller m'asseoir en quelque part puis jaser avec Jean-Sébastien Bach. J'avais plein de questions à y poser. Bon,
oui.
Je suis allé par la bande. Mmh. Alors, bien sûr, on n'est pas tous des Jean-Sébastien Bach, mais on a des compositeurs formidables au Québec.
Oui.
Puis je me dis, la série Hommage, ben, il va en avoir tout le temps, parce qu'il y a toujours des nouveaux compositeurs qui viennent remplacer ceux, hélas, qui décèdent.
Oui.
Pour ce faire, il faut que j'aille l'appui du milieu. Alors, comme ça, on s'organise avec les grands orchestres, les solistes, d'autres ensembles. C'est un projet collectif. Alors, tout ce qui bouge à Montréal, à peu près, et même au Québec, et même des fois à l'étranger,
oui.
Inscrivent dans leur programmation une œuvre du compositeur hommagé.
Oui.
Mais là, on ne pouvait pas le faire parce que tout le monde était dans l'obscurité la plus totale l'année dernière. On ne pouvait rien garantir. L'année dernière, ma phrase, c'est, je disais aux gens, je peux vous garantir que je ne peux absolument pas vous garantir quoi que ce soit.
Oh, c'est poétique.
Ben oui, on était dans les limbes. Alors, pour compenser cette histoire-là, je me suis dit, je vais faire une saison hommage.
Oui.
On va consacrer 5 de nos concerts, parce qu'il y en a d'autres,
oui,
à des compositeurs québécois pour qui j'ai beaucoup d'estime, de respect, d'admiration. Mm-hmm. Et puis, on va faire des concerts, des portraits monographiques. Alors, chaque compositeur, je lui ai transmis et transféré la lourde tâche d'être son propre directeur artistique.
Oui.
C'est-à-dire que chaque compositeur, j'ai dit, garde, t'es libre de faire ce que tu veux. Mais à l'intérieur d'un certain budget, bien sûr, parce que nos budgets ne sont pas illimités.
Oui.
C'est une durée aussi d'un lieu. Bon, mais c'est une liberté que les compositeurs ont rarement. D'avoir une sorte de carte blanche. De
oui, cette liberté musicale, quoi, voilà.
Eh oui, puis sans aucune... comment dirais-je?
Donc, contrainte.
Sans aucune...
contrainte.
Direction quelconque. Ce sont tous des gens qui sont... André Hamel, Simon Bertrand, Michel Lontain, Jean Lesage et Linda Bouchard sont tous des gens qui ont une chose en commun.
Oui.
Ils sont tous des compositeurs. Mais maintenant, stylistiquement, ils sont à des kilomètres les uns des autres. Et c'est ça qui est vraiment formidable, parce que ça va nous donner une image, un portrait qui sera encore plus précis de certaines des figures de proue qu'on a ici. Et
puis, c'est ça, c'est
les compositeurs de musique contemporaine, hélas, sont, comme je disais tantôt, sont... S'ils ne sont pas ignorés, en tout cas, on ne porte pas trop attention à ce qu'ils font par rapport à d'autres personnes qui ne méritent pas toute l'attention médiatique qu'on leur donne.
Oui,
alors, c'est un beau projet.
Oui, très beau
projet.
Qui met
de l'avant la musique de 5 compositeurs qui sont vraiment... Comme on dit, ça vaut le déplacement.
Ça vaut les absents auront tort, ça c'est clair. Les absents auront tort.
On va prier pour que. Puis il y a un concert très spécial aussi.
On revient. On va faire une petite pause musicale avec Simon Bertrand.
Oui. Puis on revient à ça.
On revient à ça. On va parler de la programmation.
Excellent.
Voilà. Oui, on n'a pas besoin d'écouter toute la pièce parce qu'elle est très longue.
Oui, c'est une grande... Mon Bertrand est quelqu'un qui écrit une musique très contemplative. C'est une musique qui est très zen, entre guillemets.
C'est ça.
Et qui... elle a sa propre exigence de nous offrir le plaisir de pouvoir s'installer,
oui.
Prendre le temps et de rentrer dans le son.
Rentrer dans le son,
et oui. d'écouter ce que le compositeur a à nous présenter,
à nous offrir. Et comme vous l'avez dit, moi je l'ai écouté. Bon, c'est très zen. Il y a une zénitude là-dedans. Là, c'est
absolument.
Voilà, c'est vraiment Simon Bertrand, une prière pour Zipanko. Voilà, on est toujours avec vous avez reconnu sa voix, l'enfant terrible de la musique contemporaine au Québec. Walter Boudreau.
L'enfant terrible de la radio.
De la radio aussi. Qui nous vient avec ce nouveau concept pour mettre en valeur de l'avant la richesse souvent trop insoupçonné du répertoire québécois, comme il a dit d'ailleurs,
oui.
Et puis quelques-uns de ses créateurs les plus représentatifs. Alors, on va parler maintenant de la programmation. Ça, il oui. y a des gens qui nous écoutent, ils ont dit, qui est au programme, qui va nous faire découvrir. On va aller tout de suite avec la date du concert numéro 1
oui, à l'auditorium. Le dimanche 26 septembre.
Ouais, dimanche 26 septembre, à 15h. À la salle Pierre-Mercure.
Salle Pierre-Mercure, et c'est une œuvre, entre autres,
oui.
qui s'appelle, dans le programme, une œuvre qui s'appelle In Auditorium.
In Auditorium.
Nous avions commandé à André Hamel, il y a, Dieu sait quand, là, il y a une vingtaine d'années, je crois.
Oui.
Il avait eu le prix Opus de la création de l'année, et c'est une œuvre qui faisait partie de mon grand projet que j'ai tenu pendant 3 ans, qui s'appelait l'OSM-CQ.
Oui.
On collaborait avec l'OSM. J'avais amené l'OSM jouer à Pierre-Mercure. Et ce concert-là faisait partie d'œuvres où est-ce que on mettait en scène, bien sûr, des compositeurs québécois et étrangers, dont on avait fait du Varèse et du Boulez et du Charles Ives.
Oui,
mais
oui.
On avait créé un auditorium de Hamel qui est pour un ensemble de vents, donc des cuivres, des bois
oui.
et des percussions. Et donc, cette œuvre-là avait été conçue spécifiquement pour la salle Pierre-Mercure. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les musiciens sont cachés partout.
Oui,
on voit pas les musiciens.
Ah bon?
Quand le chef arrive, ben oui, ils sont cachés partout. Ils sont cachés derrière les murs, ils sont cachés dans les toilettes, et derrière les portes qui mènent à l'auditorium.
Sous les escaliers.
Le chef se rend sur scène.
Oui.
Commence à diriger, et on entend, parce que les musiciens le voient. On s'est organisé pour que les musiciens puissent voir le chef.
Oui.
Et peu à peu, les musiciens rentrent sur scène.
Ah!
Comparativement à la symphonie d'Haydn, où est-ce que les musiciens quittent la scène? Là, dans le cas d'André Hamel, alors c'est très bizarre, parce que je me souviens quand j'ai créé cette œuvre-là, d'être là,
oui.
dirigé, et de ne pas voir personne, et tranquillement de voir apparaître les musiciens jusqu'à temps, parce qu'il y en a beaucoup. C'est une œuvre qui c'est pour à peu près entre 35 et 40 musiciens, je crois. Je me souviens pas de mémoire.
J'ai envie de voir, j'ai envie d'être dans la salle là.
Oui, absolument.
Donc ça va se passer de la même manière?
Ah, absolument.
OK.
Oui, absolument. Vous allez avoir la même surprise que moi j'ai eue comme chef, en tout cas, à l'époque.
Oui.
Vous l'aurez comme l'auditoire l'a eu à l'époque. Alors, écoutez, ce que je suggère aux gens, c'est d'aller sur le site de la SMCQ.
Oui.
Parce qu'on pourrait passer toute la soirée là, à décortiquer chacun des concerts.
C'est ça.
Il y a 5... Le plus important de dire, c'est qu'il y a 5 concerts des 5 compositeurs que j'ai mentionnés tantôt. Donc, André Hamel,
oui.
Simon Bertrand, Michel Longtemps, Jean Lesage et Linda Bouchard.
Ce qui
est intéressant aussi chez Michel Longtemps,
oui.
c'est que c'est un compositeur qui a arrêté de composer pendant presque une vingtaine d'années. Et soudainement, il s'est remis à composer Et vous n'avez pas d'idée comment ça sort. Et Michel Longtemps est un de, j'oserais l'appeler, un de nos grands symphonistes. C'est quelqu'un qui écrit pour des grands orchestres, mais il a écrit aussi, il vient de finir une œuvre qu'on va créer, mais ça, je ne peux pas le vendre tout de suite, là, qu'on va créer cette année avec un orchestre.
Oui.
De la SMCQ.
OK.
Et on va créer une œuvre qu'il a composée spécifiquement pour la SMCQ.
Ouais, ça va se passer le dimanche 27 février.
Oui, 2022. Oui, c'est ça.
Toujours en à la salle Pierre
Mercure. On fait des concerts maintenant l'après-midi.
Ouais.
Les gens adorent ça, on s'en est rendu compte, parce que les gens peuvent venir, ils ont le temps de luncher.
Oui.
Ils ont le temps de venir au concert. Et puis ensuite de ça, ben, ils ont le temps de revenir à la maison pour l'apéro.
Oui.
Et soit qu'ils prennent l'apéro avec tout le monde à la SMCQ, ou ils vont prendre l'apéro chez eux, puis ils vont pouvoir souper, puis se coucher à une heure respectable, parce que si ces gens-là travaillent le lendemain matin.
OK.
On a ça, on a l'histoire du balado qui est en cours de route, qui est en train d'être, je dirais pas finalisé, parce qu'il y a encore tellement, il faut aller sur le site de la SMCQ, parce que...
Oui, oui, tout est là-bas, tout est là-bas. Oui.
Il y a une bande dessinée ici qui va sortir.
Bande dessinée comptant l'histoire de la SMCQ.
Oui, voilà, il y a ça aussi qui va sortir à ce moment-là. Et puis, il y a trois concerts, le 13, le 14 et le 15 décembre, qui vont célébrer les 55 ans de la SMCQ, dont le concert, le troisième concert, qui va reprendre intégralement les œuvres qui avaient été jouées au tout premier concert de la SMCQ en 1966, donc qui sont des œuvres de Murray Schafer, de Bruce Mather, de Serge Garand et de Pierre Boulez, et on va avoir aussi, à tout seigneur, tout honneur, une création du compositeur Peter Klanak, qui attend depuis quelques années là, sa création, puis enfin, on va pouvoir la mettre en scène. Alors ça va être trois journées de suite, où est-ce qu'on va célébrer le 55e anniversaire de la SMCQ. Tout le volet jeunesse aussi qu'il faut aller voir.
Oui, oui, les buts, les balades, les chansons.
Et on a plein d'activités dans notre volet jeunesse. Puis surtout aussi, parce que notre volet jeunesse est attaché au volet pédagogique de la SMCQ, parce qu'on a un événement annuel qui s'appelle le compositeur en herbe, où les jeunes qui fréquentent les activités qu'on leur propose, et ça, c'est une entente qu'on avait faite avec la défunte commission scolaire de Montréal, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, mais on a fait une entente avec ces gens-là, et on travaille beaucoup pour non seulement introduire les jeunes au secret de la composition musicale, mais à composer aussi,
oui.
et sous le mentorat, si on veut, d'un compositeur de métier.
Oui.
Et ensuite de ça, on joue ces œuvres-là.
On est à la fin de l'entrevue.
Oui, ça, c'est important. On joue ces musiques-là.
C'est
peut-être pas encore des œuvres à ce moment-là, mais c'est vraiment formidable. Et c'est une activité qui est...
Merci beaucoup de votre temps, monsieur le directeur artistique de la Société de musique contemporaine du Québec.
Ben, c'est à moi de vous remercier.
Merci beaucoup. Allez-y, ceux qui vont, ben, de toute façon, je vais en parler tout le temps ici jusqu'à ce que ça finisse.
Et puis, tous les concerts monographiques seront en ligne également en direct.
Merci beaucoup. Merci.
Merci à vous. Boudreau.
Merci à vous.
Ok, portez-vous bien.
À vous aussi. Au revoir.
Bye.
Bye. Thank you. Là, on termine comme ça en beauté avec André Hamel, pièce pour violon et piano. Merci beaucoup au directeur artistique de la Société de musique contemporaine du Québec, SMCQ, Walter Boudreau, grand compositeur, saxophoniste, chef d'orchestre. Et merci à notre chronique de sport, Myriam Larache, qui est venue nous faire parler un peu des Paralympiques qui ont déjà démarré. Nos Canadiens sont en train d'amasser les médailles là-bas déjà. Merci à toi, Maurice Bolduc. Et chers auditeurs, auditrices, merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M. La radio de Visez-Voix, bien sûr. Et je vous dis...